au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 16 septembre, encore une magnifique journée, 22 degrés actuellement au cœur de Lanaudière. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, on va commenter le sondage Palace Data, l'actualité QC125, là, qui nous apprend que les Québécois ne veulent pas de référendum. Pierre Savignac sera avec nous, il est candidat à la mairie de Sainte-Élisabeth. Mais tout d'abord, personnalité fort connue dans le milieu culturel, dans la région de Lanaudière, Yves Lambert, oui, Yves Lambert, le chanteur. À deux mois des élections municipales de novembre, aucun citoyen de Sainte-Mélanie ne s'est manifesté officiellement pour faire la lutte à l'administration du maire Louis Freyde. Et pourtant, les manifestations se multiplient devant l'hôtel de ville pour le dénoncer. On reproche à l'administration actuelle d'adopter des règlements qui avantageraient le maire. Et Pierre Jubinville a eu l'occasion de réaliser une entrevue avec le chanteur lanaudois Yves Lambert, qui est un résident de Sainte-Mélanie. On écoute l'entrevue que Pierre a réalisée il y a environ une heure de ça avec Yves Lambert.
Alors, Sainte-Mélanie est en crise et vous êtes même allé pousser la chansonnette la semaine dernière avant la séance du Conseil de ville. Quel est votre intérêt à dénoncer l'administration en place?
Ah, mon intérêt, c'est que je suis un citoyen de Sainte-Mélanie depuis 1989 et il y a eu des administrations municipales qui étaient plus compétentes que celles qu'on subit depuis 4 ans. Et la population est complètement... Et très, très navré de ce qui arrive présentement dans la municipalité. On a un maire qui agit plus en fonction de ses intérêts personnels que des intérêts de la municipalité. Et puis, je n'ai rien contre les entrepreneurs. De toute façon, dans la région, présentement, il y en a de l'entrepreneur à voir comment ça développe dans la région. Et puis, mais quand les entrepreneurs agissent en fonction de la loi, mais que présentement, on a un maire qui est en train de chambouler les lois pour aller vers ses intérêts personnels, au même titre que d'autres conseillers aussi qui ont d'autres projets, comme un qui veut bâtir des mini-maisons dans le 8e rang, un autre citoyen qui veut partir un pit de sable si à tout près du village. C'est comme si on n'avait pas assez de pit de sable. Fait que là, c'est que le maire et les conseillers agissent en fonction de leurs intérêts et non pas en fonction de la collectivité. C'est vraiment ça.
Donc, ils n'ont pas la légitimité pour continuer à exercer leurs fonctions?
Non, absolument pas. Non, absolument pas. Et le pire là-dedans, présentement, c'est qu'on est à même plus deux mois d'élection municipale. Et regarde, comme aujourd'hui, il y a une consultation publique dans un contexte préélectoral, alors que ces règlements touchent aussi à des intérêts personnels d'élus. Il faut noter qu'au lendemain, ça veut dire demain, le maire et les conseillers ont convoqué une réunion extraordinaire, une deuxième en une semaine, afin d'approuver le règlement discuté la veille lors de la consultation publique de la veille. Tu comprends? C'est que là, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, il veut passer ses lois et ses règlements parce que les élections s'en viennent. Fait que là, puis en plus de ça, demain, la consultation a lieu à 2h de l'après-midi, même pas le soir où il y aurait plus de monde travaille, là. Fait qu'il a fait 2h de l'après-midi pour avoir le moins de contestations possible, tu sais. Fait que c'est rempli. C'est un maire qui remplit de mauvaises intentions en fonction de ses intérêts personnels. Mais ça fait, on pourrait en parler bien longtemps parce que ça fait 4 ans qu'il agit en fonction de ça. Il a gagné ses élections en faisant parcourir des food trucks dans la municipalité pour nourrir le monde en donnant des trucs, des chandails. Puis après ça, il y a eu à peu près, du monde qui sont pris de retraite, des gens qui ont fait des burn-out, c'est autant dans la bibliothèque, autant dans les loisirs, autant dans la comptabilité. C'est énorme. Il y a 12 personnes de importantes, des secrétaires. Tout le monde est parti parce que c'est un être Puis là, il faut que je fasse attention. Moi, on m'a dit de faire attention à tes propos, puis je me sens, me fais briefer, là. Parce que lui, il profite de tout. Puis c'est vrai que les gens sont très, très, très au courant de ce qui se passe, et ils profitent de tous les moments pour dire que le monde est chialeux, tu sais. Le monde sont pas contents, mais c'est que des chialeux, mais c'est pas ça. Puis comme je disais à Mario Dumont un matin, à Québec Radio, c'est que là, il va falloir, à un moment donné, que les hauts fonctionnaires, même la nouvelle ministre
des affaires municipales,
se mettent dans le dossier, parce que c'est absolument hallucinant. Puis il a passé en cours au mois de mai, juin, et pour les mêmes choses, parce que avec un conflit d'intérêts évident, et le juge qui jugeait la cause a décidé par manque de preuves. Mais c'est pas par manque de preuves, c'est que ça aurait peut-être occasionné un jurisprudence, tu comprends? Mm-hmm. Puis il voulait pas se rentrer là-dedans. C'est le rôle du juge, mais ça, on sait ce que vaut aussi, quelque part, la justice. Fait que là, c'est un paquet de connivences de même, mais c'est un dossier extrêmement important et qui mériterait la présence du gouvernement. Tu comprends?
Ouais, oui, et le maire est toujours en place.
C'est que, hein?
J'ai dit, le maire est toujours en place.
Ben, le maire, puis il a le droit décisionnel en plus, tu sais? Fait qu'il y a encore tout le contrôle de toutes ces décisions-là qui s'en viennent là dans les prochains mois. Après ça, là, c'est octobre, novembre, ces élections au début novembre. Fait que, tu sais, il y a encore le beau jeu, malgré tous les avertissements, malgré toutes les contestations. Nous autres, je sais pas comment ça fait de choses qu'on signe, là, de pétitions qu'on signe contre soi, contre ci, contre ça. Vous savez, 3-4 fois, je vois, puis tout le temps, 300-400 signatures, tu sais, c'est pour un village de 3400 habitants, c'est quand même très... Fait que lui, il joue tout le temps là-dessus, puis c'est un gars très intelligent aussi, tu sais, fait que... Mais il profite, puis c'est quelqu'un qui est très, très mal intentionné, et qui est maire de Sainte-Mélanie uniquement pour ses intérêts personnels, tu sais. Puis ça, c'est absolument, à mon avis, scandaleux.
Avez-vous l'intention de continuer à vous impliquer d'ici la campagne électorale? Est-ce que ça grouille un peu à Sainte-Mélanie pour l'organisation d'une opposition?
Il y a plein de gens qui en discutent. Là. Hey, c'est un sujet qui est complètement d'actualité présentement. Mais encore là, il y en a qui ont l'intention peut-être de se présenter à la mairie et qui ont déjà reçu des menaces, t'sais, par des courriels malveillants. Non, c'est... C'est cow-boy, là, présentement, dans la municipalité. Mais moi, j'ai rencontré, à la manifestation de lundi passé, j'ai rencontré plein de connaissances, puis on a tout du bon monde ici, tu comprends? Les citoyens de cette maladie, c'est du bon monde, là. C'est des agriculteurs, des paysans, des musiciens, de tous les métiers, puis on regarde ça, puis on trouve ça absolument hallucinant, quelque part. Autant de malversations, quelque part, venant d'un élu qui travaille pour ses intérêts à lui et les intérêts du conseil aussi. C'est ça qui est encore pire. Puis là, il y en avait un conseiller dans le Journal de Montréal un matin, je me souviens plus du nom, là, qui disait mais le monde viendront pas acheter des terrains à Sainte-Mélanie. Lui, ce gars-là, ça fait à peu près. Il a été aux séances du conseil à peu près 5 fois depuis 4 ans. Il est tout le temps en congé de maladie, mais là, le journaliste a eu une référence, il l'a appelé. Puis là, c'est lui qui s'est inscrit dans le débat, il est jamais là. Je me souviens plus du nom, là. Mais, tu sais, tu comprends, mais c'est absolument hallucinant. Tu sais, mais là, je fais très attention à mon langage, parce que je me suis aperçu, en parlant avec Mario Dumont un matin, moi, je suis une grande gueule aussi, puis je suis un émotif, moi. Puis je suis un artiste, premièrement, je suis pas un politicien, loin de là. On me l'avait déjà demandé, moi, il y a longtemps. C'est ma blonde qui l'a fait à la job.
Justement, votre conjointe a-t-elle l'intention de replonger en politique?
Elle m'a dit de pas le dire, là. Elle m'a dit de pas le dire, non, pour pas créer, justement, un amalgame. Et je la comprends, puis là, je fais attention de pas le dire, mais ma conjointe a été mairesse pendant 6 ans, c'est Mélanie, mm-hmm. là. Je suis pas quelqu'un qui arrive, je suis au courant de ce qui se passe à Mélanie. Puis ma conjointe qui était une personne au niveau de la gouvernance, qui était exemplaire au niveau de la gouvernance, au niveau de l'intégrité, au niveau de l'ouverture, au niveau de... C'est une personne que je connais depuis longtemps, et c'était un village très bien administré, pas de hausse de taxes. Depuis les 6 ans qu'elle était là, elle n'a jamais augmenté les taxes. Puis quand en partie de là, il y avait un bon bas de laine pareil. Puis, mais c'est depuis ce temps-là, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Fait que moi, certain que moi, je m'implique au mieux de mes capacités. Là, on m'a demandé de composer une chanson pour la manifestation, puis là, je vois que les journalistes, ils allument. Qu'est-ce que tu veux, Lambert, il est connu. Ah, ben ouais, je sais.
Dites-moi,
c'est quand même, je dois te dire, c'est quand même une responsabilité de ma part, puis c'est pas ma spécialité. Moi, je suis pas un négociateur comme Lucien Mouchard, là, tu sais, qui veut prendre n'importe quelle chose puis l'emmener dans un discours complètement cohérent. Moi, je suis un gars qui a été élevé dans la province cathédrale à Joliette, là, à Joliette, tu sais. Moi, le H, je l'ai dans peau, là. T'es un gars de Joliette aussi.
Oui.
Non, mais tu comprends. Fait que, mais c'est vrai, c'est extrêmement... Puis il y a quelqu'un qui a lu, puis peut-être j'ai dit que les gens étaient en colère, et ça pourrait peut-être nous tomber sur le dos, puis le maire pourrait en profiter pour... Mais c'est que les gens au lieu de dire qu'ils sont en colère, les gens se sentent très concernés par la chose. Très, 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 très concernés. Et avec raison, quoi, tu comprends?
Dites-moi donc, en terminant, M. Lambert, parlez-nous de la chanson choisie « Démon sort de l'enfer » lors de ce rassemblement.
Ah, ben ça, c'est une chanson que j'avais choisie dans mes dernières années de bottine, au début de l'an 2000, qu'on avait fait un album qui s'appelait « Cordial ». Et cette chanson-là, c'est drôle à dire, dans le secret, c'est une chanson qui m'avait permis de rester quelques années de plus au sein de la bottine, parce que j'aimais pas l'ambiance de la bottine, puis je suis parti parce que, pour garder ma santé, puis mon esprit créatif et artistique. Et cette chanson-là, c'est une chanson dénonciatrice. Le démon sort de l'enfer pour venir sur terre, pour ramasser tous les escrocs, tous les trucs de cul, tous les ci, les ça, tu sais. Et puis, c'est une chanson qui sert à un prot. Pour moi, comme quand je l'ai redécouvert, j'ai vu les possibilités de cette chanson-là parce que c'est un protest song. C'est une chanson qui peut servir à dénoncer des choses. Et quand j'ai composé quelques couplets sur le dossier de Sainte-Mélanie. Et c'est tout ça, c'est très léger, là, mais je sais pas combien de couplets j'ai composé depuis que je l'ai sorti des limbes de la tradition populaire, mais c'est une chanson qui est utile dans le sens de dénoncer des choses, fait que le démon de l'enfer. Fait que là, puis même, moi, je prépare un album pour... live pour d'ici à la fin de l'année et pour l'année prochaine. Et il y a une autre version, je l'ai faite, j'en ai une version, puis j'en fais une autre sur avec la même thème, mais complètement une autre chanson. Chanson de Yob, dans la tradition québécoise, des Yob, il y en a, tu sais. C'est présent dans la chasse-galerie, c'est le Yob, il y a des groupes traditionnels présentement. Le Yob à 5, le Yob à 4, le rêve du diable. Le Yob, c'est une thématique très, très, très utilisée, quoi. Fait que moi, je m'en...
Le coloré Yves Lambert, et puis pour peut-être attraper son blanc de mémoire concernant le conseiller municipal là, qu'on citait, conseiller municipal à Sainte-Mélanie, qu'on citait ce matin là, dans le Journal de Montréal, il s'agit de Michel Bernier, qui est conseiller municipal à la municipalité. Donc, du côté de Sainte-Mélanie, en vous rappelant qu'il y a une consultation publique des citoyens ce soir, c'est à 19h, à l'Hôtel de Ville de Sainte-Mélanie. On fait le tour de ce qui retient l'attention dans l'actualité, là, au retour à CFNJ.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
L'événement Prenez la route Hyundai est de retour. Cet été, que vous empruntiez la 10, la 15 ou la 132, votre taux de financement sera de 0% à l'achat d'une IONIQ 6 2025. Plus, recevez jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. Ou louez la version Preferred longue portée à partir de 1,99% avec des paiements hebdomadaires de 100 $. Avec ses 581 km d'autonomie, c'est facile d'électriser son été avec Hyundai. Les conditions s'appliquent. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Donat, Saint-Charles-Borromée, Saint-Lin-Laurentide, Mandeville.
CFNJ 99.1-88.9.
Les chansons américaines, on n'en joue pas.
Ouais, voilà,
parce que chaque petit geste est important.
16h22. Ah, voilà. Le petit mot de circulation pour vous mentionner je vous parlais d'un véhicule en panne tout à l'heure sur Charles de Gaulle, là, en direction de la Rive-Nord. Eh ben, ça a été déplacé il y a à peine 5 minutes, mais le mal est fait. Là, c'est lourd, c'est très lourd, métropolitaine, depuis avant même l'avenue Marien. Ce qui retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui, le centre de services scolaires de la Rivière du Nord qui vise 2 à 3 ans là, pour la reconstruction de l'école Val-des-Monts qui a été ravagée, je vous le rappelle, là, par un incendie vendredi passé. Et en point de presse aujourd'hui, son directeur général, René Brisson, a précisé que les équipes du centre de services et du ministère de l'Éducation travaillent présentement là, à définir des paramètres de l'école qui va être à reconstruire. Une école temporaire devrait cependant là, être ouverte là, pour la prochaine année scolaire. René Brisson a confirmé là, que l'école serait reconstruite dans le même quartier. Il n'a pas écarté aussi l'idée qu'elle pourrait avoir une capacité d'accueil plus grande en raison de l'augmentation démographique du côté de Prévost dans les Laurentides. On l'écoute.
Des fois, les conditions de chantier font en sorte que les travaux peuvent être réalisés plus rapidement. Le plus rapidement qu'on a vu à Argenteuil, à Saint-Philippe, où l'entrepreneur est en avance sur son échéancier, puis l'école a été reconstruite en 1 an et demi. Ce n'est pas la norme, mais c'est possible. Donc, c'est ça que nous, on vise de 2 à 3 ans, d'où l'importance d'avoir une école temporaire le temps de la reconstruction.
Et on a appris aujourd'hui que Chrystia Freeland quittait le Conseil des ministres à Ottawa. Le premier ministre Mark Carney la nomme représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine. La famille de Chrystia Freeland a des racines ukrainiennes et il faut rappeler qu'elle est élue depuis 12 ans et elle va rester cependant députée. Mais Chrystia Freeland a indiqué qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales. Le député néo-démocrate Alexandre Boulrist s'est joint à des militants pro-palestiniens exhortant le gouvernement libéral de faire pression contre Israël dans la guerre à Gaza. Ils soutiennent là, que les actions du gouvernement israélien sont génocidaires et que le Canada doit imposer de véritables sanctions là, plutôt que de se limiter là, à des critiques et des condamnations sans suite. Alexandre Boulrist espère que son appel va être entendu là, par les autres députés et qu'ils agiront aussi là, pour faire pression sur le gouvernement canadien. On l'écoute.
C'est pas une question partisane, c'est une question de droit de la personne, c'est une question de respect de la vie humaine. Alors j'espère que mes collègues, que ce soit du Bloc québécois ou que ce soit du Parti libéral, vont avoir le courage de se tenir debout, de nommer les choses par leur nom et de faire pression sur le gouvernement libéral pour qu'il agisse finalement.
Il y a le premier ministre Mark Carney qui avait déclaré la semaine passée là, vouloir une accélération du projet de TGV pour que ce projet soit réalisé là, 2 fois plus vite que prévu, soit en 4 ans au lieu de 8 ans. Et le PDG d'Alto, Martin Imbeau, se dit pour sa part convaincu que de la pertinence du projet en donnant l'exemple là, de l'Espagne où un train grande vitesse a incité là, le tiers de la population à se déplacer par ce moyen.
35 % des utilisateurs du TGV espagnol, ce sont des gens qui se déplaçaient pas. Ça a enrichi le pays de manière extraordinaire. Et au Canada, notre productivité au Québec et en Ontario, elle est affectée parce que nos transports sont pas très bons, ils coûtent très cher, on y prend des embouteillages, puis ils sont pas électriques. Bien, un TGV, ça répond à tous ces besoins-là. Donc, c'est un investissement pour les 100 prochaines années.
Mais quand même, bon, quand on parle de l'Espagne, il faut mentionner que du côté de l'Europe, le transport par train est enraciné dans les mœurs depuis nombre d'années. Et les TGV, ben, on voit ça en France, d'ailleurs, depuis très, très longtemps. Ça fait quoi, 30 ans, je pense, que le TGV a été implanté du côté de la France. Alors, donc, c'est évident qu'en Espagne, on a emboîté le pas quand le service de TGV a été instauré. Ben, les gens l'ont évidemment tout de suite adopté. Il y a le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui affirme que les trains doivent être équipés immédiatement de mécanismes de sécurité de secours pour prévenir une collision ou un déraillement. Et cette recommandation du gouvernement fédéral fait suite à une collision ferroviaire qui était survenue à Montréal en 2023. Il y a un rapport qui a été publié aujourd'hui qui indique qu'un des trains avait franchi un signal qui exigeait là, un ralentissement et n'a pas respecté ce signal. Luc Régis est enquêteur désigné sur l'accident de la gare Saint-Léonard-Montréal-Nord et explique que un système de sécurité aurait permis d'éviter cet accident et plusieurs autres d'ailleurs.
Les enjeux de sécurité relevés dans cette enquête ne sont pas isolés. Ils reflètent des vulnérabilités systémiques qui existent depuis longtemps dans le système de transport ferroviaire canadien et qui persistent depuis plus de deux décennies. Depuis 2023, le BST a lancé 8 enquêtes sur des événements dans lesquels l'absence de protection physique à sécurité intégrée supplémentaire a été un facteur.
La fusion entre les deux entreprises minières Teck Resources et Anglo American doit encore démontrer là, son bénéfice net pour le Canada. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Mélanie Joly, la ministre de l'Industrie. Et même si le plan prévoit le déménagement du siège social de la nouvelle société à Vancouver, ben, la ministre a indiqué que le point de la sécurité économique doit être étudié avant d'accepter l'accord.
On pense qu'il y a des choses sur la table qui ont été mises qui sont positives, mais on doit aller plus loin. Moi, ma préoccupation présentement dans le cadre de cette transaction-là, c'est pas juste les engagements à court terme, mais c'est vraiment à long terme.
Voilà, il est 16h28 avec 22 degrés au cœur de la Naudière.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, métropolitaine pour Charles de Gaulle. Je vous en glissais un mot tout à l'heure. Là, c'est pas facile actuellement puisqu'il y a eu un véhicule en panne sur Charles de Gaulle un peu plus tôt. Bon, ça a été dégagé, mais quand même, là, ça demeure lourd depuis le secteur Bourget. Là, je vois que c'est presque paralysé d'ailleurs dans le secteur Bourget. Ça demeure lourd jusqu'à Henri Bourassa. Ouais, c'est ça. Même Henri Bourassa, je regarde actuellement la caméra de Transport Québec. Ouais, c'est encore très, très lent, secteur Henri Bourassa. Je peux dire qu'on reprend de la vitesse vraiment à partir du pont de détachement du CN. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny, ça se passe bien, 40 Est. Vous mentionnez aussi que la 341, montée de l'Épiphanie, là, c'est très, très lent, entre la 40 et le rang du bas, l'Assomption Sud. Maintenant, pour ce qui est du pont Le Gardeur, ouais, quand même pas si mal, là, à partir de Notre-Dame ou encore Sherbrooke, l'on traverse aisément vers Repentigny. 25 Nord, plutôt dense, secteur de la jonction avec la 25, je dirais sur environ 1 km. Ouais, c'est ça, par la suite des choses, ça va bien pour traverser vers Terrebonne. Pont Sophie-Masson, c'est assez dense présentement depuis environ 500 mètres avant le boulevard des Mille-Îles et ça jusqu'au chemin Saint-Charles de l'autre côté. Et finalement, autoroute 640, ça se passe bien dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles avec Pierre Jubinville dans un instant.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par la Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partiel en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partiel, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée. 450-756-1935.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant la liquidation totale, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Procurez-vous un Rogue 2025 à un taux de financement aussi bas que 0% jusqu'à 48 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Vous avez un appétit d'ours?
Ouvrez avec fierté votre nouveau frigo de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Pierre Jubainville dans l'actualité. Aujourd'hui, on a encore une fois parlé de cette mère de la fillette qui a été abandonnée là, cet été. Et elle va devoir suivre une thérapie, donc elle va rester à Pinel.
Oui, elle a été déclarée hier, faut se le rappeler, non criminellement responsable, mais elle devra rester détenue. Elle va passer 3 mois à l'Institut Philippe Pinel. Annie Guillemette.
La femme de 34 ans présente encore un risque pour la sécurité du public, selon le juge Bertrand Saint-Arnaud. Il lui impose donc une détention avec des possibilités de sortie. Sa médication n'est pas encore stabilisée. Elle doit apprendre à reconnaître les signes d'une psychose et sa progression reste fragile. Son cas devra donc être réévalué. La procureure Lily Prévost-Gravel.
Il y aura un nouveau rapport d'un psychiatre avec l'évolution que Madame aura eue dans les 90 derniers jours.
Pendant cette période, la fillette, que la mère ne peut pas encore contacter, continue de guérir doucement. Son père, lui, se remet des détails des faits qu'il a appris dans les dernières heures.
Ça a été un choc, il doit encaisser, il doit comprendre.
Quand même, le juge Saint-Arnaud a affirmé à la femme qu'il l'écoutait debout dans le box, qu'il pense sincèrement qu'elle pourra un jour retrouver un rythme de vie normal ou presque. Une opinion que partage la procureure.
On souhaite tous que la personne se réinsère socialement.
Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles, Salaberry de Valleyfield.
Et Pierre, l'ancienne PDG de la SAAQ n'a pas tout transmis là, au gouvernement.
Oui, on en apprend beaucoup cette semaine. C'est la grosse semaine, d'ailleurs, de témoignages. L'ancienne PDG, donc Nathalie Tremblay, a transmis de l'information incomplète et inexacte au gouvernement alors qu'elle dirigeait la Société d'État. Elle a d'ailleurs dirigé la Société d'État pendant 12 ans. Elle poursuivait donc son témoignage à la commission Galant. La SAAQ a envoyé un document à des élus de l'Assemblée nationale dans lequel on indique que le contrat pour le virage numérique est respecté à la lettre, alors que ce n'était pas le cas.
C'était notre façon de communiquer que, oui, le contrat allait être suffisant pour faire L2, bien qu'il y avait 3 livraisons de prévues. Je conviens que ça aurait pu être plus clair. J'en conviens.
Scène municipale maintenant, premier candidat en prévision de l'élection à Sainte-Élisabeth.
Oui, l'opposition s'organise à Sainte-Élisabeth. Il faut se rappeler que la municipalité a été mise en tutelle en juillet. Le premier candidat, c'est Pierre Savignac, qui déposera officiellement sa candidature vendredi. Il se présente avec une équipe entière et une vision du futur.
Mais je veux l'amener à une consultation, puis on a une vision... qu'on a défini avec des citoyens qui veulent s'impliquer, c'est de mettre le citoyen au centre de nos actions. Ça, c'est primordial.
On reste dans le domaine de la politique municipale, Pierre, des consultations publiques qui se tiennent ce soir à Sainte-Mélanie où une crise politique sévit.
Oui, il y a une crise politique qui dure depuis plusieurs mois à cet endroit également. Ce soir, c'est les citoyens auront 15 minutes pour poser des questions. Et déjà demain après-midi à 14h, le conseil municipal tiendra une séance spéciale pour adopter le règlement. Selon plusieurs citoyens, Claude, le conseil devait continuer à voter des règlements qui avantageraient le maire au nom du développement du territoire.
Plusieurs autobus qui sont toujours au garage.
Oui, encore une fois aujourd'hui, dans plusieurs régions, dont dans la Naudière, la situation affecte le territoire du centre des services scolaires des affluents. Et ce serait le système de ventilation des autobus qui serait en cause.
Le non l'emporterait advenant la tenue d'un référendum.
Oui, le Parti québécois aurait, parce qu'on va attendre, de la difficulté à convaincre les Québécois de la nécessité d'un nouveau référendum sur la souveraineté. C'est le 3e volet de ce fameux sondage Palace Data qui a été mené pour le compte de l'actualité et de QC125. Pierre Gifournier, rédacteur en chef de QC125, il explique l'étendue des résultats.
presque la moitié se disent très défavorables à l'idée. On ajoute un 15% de plutôt défavorable, on obtient 64%. 19% se disent très favorables à l'idée, donc c'est un lecteur sur 5. Et on ajoute un 13% de favorables au total avec les chiffres arrondis, ça fait 31%. Et donc, ça montre à quel point l'opposition au référendum est élevée.
Et le premier budget du gouvernement Carney sera présenté en novembre.
Oui, le 4 novembre, c'est ce qu'a confirmé le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Il a indiqué que ce budget sera particulièrement orienté sur les investissements.
C'est une situation de rupture. Hein? On a notre plus grand partenaire, notre allié qui nous tourne le dos. Alors, on doit faire des investissements générationnels pour justement s'assurer d'avoir une économie canadienne résiliente. Donc, ça va être un budget qui va être basé sur bâtir l'économie canadienne, protéger nos communautés et s'assurer qu'on ait l'économie la plus résiliente du G7.
On aura l'occasion tout à l'heure, Pierre, avec Jacques Plante, de revenir justement, on parlait de ce sondage Palace Data concernant un éventuel référendum dans un gouvernement péquiste. On va revenir avec Jacques Plante là, qui va
commenter. Il y a quand même des données intéressantes pour l'Anaudière. Ouais,
mais clairement, les Québécois ne veulent pas de référendum.
Non,
ouais.
À l'échelle provinciale.
Sur l'Anaudière, ouais, des données intéressantes qu'on va vous sortir. Merci Pierre Jubainville. Bye. Il est 16h36.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Voilà, il est 16h37. L'opposition qui s'organise du côté de Sainte-Élisabeth, mise en tutelle il y a quelques semaines, faut le rappeler. Et le premier candidat à la mairie se manifeste, il s'agit de Pierre Savignac. Et Pierre Jubainville a eu l'occasion de lui parler.
Un premier candidat à la mairie se manifeste, il s'agit de Pierre Savignac. Monsieur Savignac, d'abord bonjour et parlez-nous de vous.
Parlez de moi, mais moi je peux vous dire que j'ai été élu le 7 juillet 24. J'avais aucune expérience en politique municipale avant 7 juillet 24. Les gens m'ont donné un mandat à 88%. Ils avaient été clairs qu'ils avaient souhaité du changement dès lors l'an passé. Fait que suite à ça, ça fait 14 mois que je suis conseiller et j'ai pu apprendre avec mes camarades Diane Lavallée, conseillère, et François Lafave de toute la vie politique, puis les enjeux, puis les prises de décision qu'on a à prendre. Fait que depuis 14 ans, j'ai peu d'expérience, mais antérieurement, j'avais eu une bonne expérience syndicale.
Oui, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi dans votre passé?
Ben, dans mon passé, je travaillais chez Kroger à Grapterie. J'ai été président de l'Union 10 ans. C'est un gros syndicat, 550 membres. J'ai été impliqué près d'une vingtaine d'années, là. J'ai travaillé pour le service de syndicalisation de la CSN, puis j'avais des mandats et c'était là, puis on était bien actifs, hein. On était en temps plein là-dedans, nous autres, quand on était impliqués, on est libérés à temps complet, fait que on a toutes sortes de dossiers à défendre, puis qu'est-ce qui est différent de la politique municipale, un président de syndicat, c'est les membres qui prennent les décisions. Si j'avais à négocier, mais j'avais un rapport à faire en assemblée, puis s'il y avait 200, 250 personnes, après avoir fait des débats, des discussions avec eux, il y avait un vote, puis c'est eux autres qui entérinaient quel est le travail qu'on avait fait. Fait que c'est, puis il y a politique municipale, mais là, qu'est-ce que j'ai appris dans les 14 derniers mois, ou les deux dernières années, c'est que, c'est le monde qui sont en avant, qui décide de façon unilatérale, ils peuvent interpréter l'article 1063, on n'a pas de droit de vote, rien. Fait que j'étais un peu mon ADN syndical n'était pas corroborait pas avec cette politique municipale-là, puis ils ont le pouvoir absolu sur n'importe quoi. Puis là, ben, pourquoi je me suis impliqué à vouloir faire des changements? C'était un peu ramené. Je sais qu'on va avoir des décisions, c'est nous autres. Mais je veux ramener une consultation, puis on a une vision de qu'on a définie avec des citoyens qui veulent s'impliquer. C'est de mettre le citoyen au centre de nos actions. Ça, c'est primordial.
Vous vous présentez donc, Monsieur Savignac, vous vous présentez donc à la mairie avec une équipe complète. Votre candidature sera officialisée quoi d'ici la fin de la semaine, hein, je crois?
Elle va être officialisée vendredi matin. On a pris un rendez-vous pour s'assurer là, que ça soit bien fait avec la directrice générale. Fait que vendredi matin, 9h, on dépose notre mise en candidature pour au nouveau maire, mais aussi on dépose pour l'équipe. Il faut développer encore un document selon politique les choses électorales. Le nom de notre équipe, c'est Vision Bayolaise, qu'on a travaillé depuis plusieurs mois avec des citoyens, de bien représenter, puis que les gens soient fiers de nos équipes bayolaises. C'est ça qu'on souhaite. C'est notre défi.
Parlez-nous des racines du nom de votre formation politique.
C'est comme un peu notre vision.
Quand vous parlez de Bayonnaise, ça vient d'où, ça?
Ah, bien... Nous autres, à Sainte-Élisabeth, on est des Bayonnais bayonnaises. Okay? Et ça fait partie, c'est à cause que la rivière Bayonne traverse le village. Fait que moi, je suis natif de Sainte-Élisabeth, je suis né en 56, puis depuis ma naissance, je suis un Bayonnais. Puis il y a ceux qui résident à Sainte-Élisabeth, mais c'est Bayonnais ou Bayonnaise. Puis là, pourquoi notre vision bayonnaise? Mais ça représente notre population, notre communauté. Et de mon vision, mais c'est qu'est-ce qu'on veut propager dans les prochains mois, prochaines années.
Quels sont les principaux problèmes auxquels est confrontée la municipalité actuellement?
Ben, les principaux problèmes, c'est sûr que depuis deux ans, trois ans, quatre ans, il y a un mécontentement général. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous les dossiers, mais entre autres, il y en a un. Depuis 2023, c'est les états financiers. Ils sont pas encore audités, puis que on parle qu'on est près de l'année 2026. Fait qu'on peut prétendre que les états financiers 2023 sont pas présentés aux citoyens en 2025. On peut prétendre que ça va être en 2026. Autre dossier problématique, c'est le projet de l'Église, le dossier de l'Église. Encore là, je ne rentrerai pas dans les détails de ce dossier-là, mais que éventuellement, si on est élu par la population, la nouvelle équipe va effectuer un rapport détaillé avec les coûts engendrés depuis le début. C'est un dossier qui a été initié en 2020. Nous aurons à prendre des décisions. Puis on va le faire collectivement. Après, un des autres dossiers qui est problématique, c'est l'aqueduc et les égouts. Ça va être des décisions de choix de vie puis choix de coût. Ça va avoir des effets de coût au développement urbaniste, noyau villageois. Puis juste pour vous dire, il n'y a aucune étude d'indépendante à ce jour à savoir pour tout ce qu'il y a à faire sur ces enjeux-là. Nous autres... c'est un dossier avec des enjeux énormes. Puis le pari qu'on fait, c'est de consulter les Bayonnais-Bayonnaises, proposer des scénarios pour les entendre, puis prendre des décisions responsables. Fait que c'est les problématiques qu'on a, qu'on vit, que les gens se questionnent depuis des années, puis qu'on n'a pas de réponse. Fait que c'est des dossiers en gros, que
vous allez mettre de l'avant. Dites-moi, dernière chose, évidemment, comme éventuel maire, vous souhaitez sûrement la levée de la tutelle qui a été imposée récemment.
La tutelle est implantée le 10 juillet par notre recommandation de la ministre Laforêt. Il y a eu une observatrice qui est venue au printemps, puis elle a prolongé son mandat pour s'assurer de bien saisir les enjeux, puis là, on va tomber sous tutelle. Les enjeux de la tutelle, il y avait quatre points. Un des points, c'est les états financiers, que c'est un gros enjeu. On se rappellera qu'en 2022, on a eu un déficit que c'était présenté en juin 2023, on avait un déficit de 1,2 million. Ça fait que ça a enclenché un audit qui était faite par la commission municipale. Puis eux-mêmes ont fait rapport à la ministre. Fait que, suite à ça, mais là, on est sous tutelle. Là, qu'est-ce qu'on sait de la tutelle? C'est qu'ils ont le pouvoir additionnel sur tout ce qui est administratif. De ressources humaines. Il y a volet sécurité des employés. Ils ont tout. Fait que, nous autres, comme présentement le conseil, comme le prochain conseil, on va avoir à jouer notre rôle, mais sous surveillance de la tutelle. Puis la tutelle, elle va avoir des décisions à prendre, à savoir si nos choix sont collectifs, puis ils sont sains pour une saine gestion. Ils vont approuver. On peut prétendre, si on regarde ailleurs, quand ils sont débattent dans une municipalité, ça peut être pendant un an qu'ils vont être présents encore.
Voilà, c'est Pierre Savignan qu'on écoutait. Il est nouvellement donc candidat à la mairie de Sainte-Élisabeth. Premier candidat qui se manifeste là, pour l'élection municipale qui s'en vient au mois de novembre. On parle référendum dans un moment avec Jacques Plante.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Ils ont joué gagné au Super Radio Bingo le dimanche 14 septembre. Gagne 57 et 14 avec la ligne des N. Guylaine Léveillé de Saint-Félix-de-Valois. Robert Prudhomme de Joliette. Huguette Roussy de Saint-Charles-Borromée. Céline Saint-Jean de Radon. Nicole Tremblay de Mondeville. Nancy Lefebvre de Saint-Michel-des-Saints. Et Monique Terrien de l'Assomption. Elle remporte 4 000 $ avec sa carte pleine achetée au dépanneur Formule 1 à Berthierville. Pierrette Leclerc de l'Île-du-Pas. Quant à la deuxième chance, 600 $, elle a été remportée par Marie-Josée Corbin de Radon grâce à une carte achetée au Marchand du coin. Tous les dimanches, à 10h05, 5 000 $ à gagner avec les trois jeux au Super Radio Bingo de CFNJ. Les cartes sont en vente dans plus de 130 dépositaires, dans la Naudière, en Mauricie, dans le centre du Québec et dans le port Richelieu. La liste complète de nos dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Le Vent du Nord se pose à Joliette le 10 octobre prochain avec Voisinage. Un nouveau spectacle mis en scène par Michel Faubert.
En cabane et l'ennui, à l'eau de vie de l'arbre. En cabane et les nuits, dans l'eau de vie des rables.
En cabane et les nuits.
Réservez vos billets pour le Vent du Nord au Centre culturel Desjardins dès maintenant. Une présentation de La Source Bain Nordique.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Au concert du dimanche à CFNJ, Claude Dubois.
J'aurais voulu être un artiste.
Le concert du dimanche, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
On va se faire un petit référendum. On va se faire un petit référendum.
Sur la pointe.
Sur la pointe. Hey. C'était une chanson qui s'appelait Le référendum en 1977. Donc, le Parti québécois venait d'être élu et avait promis un référendum dans son premier mandat. Donc, 1976, élection du Parti québécois avec à sa tête René Lévesque. Et référendum en 1980 qui a été perdu par le Parti québécois.
Ouais. Et là, on se retrouve en 2025. C'était bien d'entendre ça en 76. Ça nous rajeunissait de quelques années. Hein? Je me souviens où j'étais en 76. Sauf que là, j'ai maturé, beaucoup plus sage. Non, 2025, et ça, c'est le fameux sondage Palace Data qui a été décortiqué là au niveau des partis politiques, la popularité et tout ça. Et il y a eu un volet de fait sur le référendum.
Oui, parce qu'on troisième
le sait,
volet.
Oui, parce qu'on le sait, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef actuel du Parti québécois, a dit « Dans l'avènement de l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, dans le premier mandat, ça veut dire dans les 4 premières années, il va y avoir, on dit pas quand, là, si c'est la première ou la deuxième, importe, mais dans cette fenêtre-là de premier mandat, il y aura un référendum. »
Dans le cas de René Lévesque, c'était à la troisième année.
De mémoire, oui. De mémoire, Claude.
Troisième année. Alors maintenant, dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a clairement un problème parce que selon ce sondage Palace Data, les Québécois ne veulent pas de référendum. Et pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui sont peut-être frileux du fait qu'ils ont peur que le oui perde encore une fois. Ça, c'est une raison qui est très valable.
Oui, oui, oui.
Il y a d'autres personnes qui se disent non, c'est pas le temps de consulter la population sur
Mais il reste un
référendum là, sur l'indépendance du Québec.
Il reste, quand j'ai lu ça, je trouve ça, c'est surprenant parce que les derniers sondages, là, que Palace Data, mais Léger et compagnie et tous les autres, donnent une large avance au Parti québécois.
Oui, mais les gens veulent changer.
Les prochaines élections.
Les gens veulent changer de gouvernement.
Oui, mais.
Ça, c'est clair.
Il y aurait un choix.
Oui.
Il y aurait le choix.
Exactement.
Entre le PQ, le PLQ, il y a du choix, là. L'Union.
Est-ce que ce sont des souverainistes, nécessairement, qui votent pour le Parti québécois? Ça, j'en suis pas convaincu à 100%. En tout cas, 100% des voix pour le Parti québécois ne sont pas nécessairement souverainistes. Mais il y a une chose, c'est que ce qu'il faut voir plus clairement, c'est la question, c'est êtes-vous en faveur de l'indépendance du Québec? S'il y avait un référendum demain matin, est-ce que vous voteriez oui ou non? Alors, c'est ça qu'il faut regarder à la base. Et là, ça stagne pas mal à ce niveau-là. Bon, le oui a augmenté d'à peu près 3 points par rapport au printemps, là, mais c'est loin d'être suffisant.
On est à 35, là, si j'ai bien vu les chiffres, comme tu l'évoquais, la progression de 3 là, par rapport à la période estivale. Mais tu mets le doigt dessus,
oui.
Quand même, quand tu mentionnes, Claude, les gens, on est dû pour un changement, parce que, règle générale, tu sais, là, je dis ça, puis je fais une pensée à Trudeau, là. Règle générale, un gouvernement, il fait 2 mandats, puis on change.
Ouais.
Alors là, on arriverait à cette période-là pour l'élection de l'automne 2026, et ce qui apparaît dans les sondages, et c'est pour ça ce que tu mentionnes, je suis d'accord avec ça, que c'est pas nécessairement des indépendantistes ou des péquistes ou peu importe, c'est qu'on veut changer, et pour le moment, le véhicule qui semble le plus intéressant à qui on est porté à faire confiance, c'est le Parti québécois.
Exactement. Et hein? Son chef aussi.
Oui, exactement.
Oui.
Saint-Pierre Plamondon, il y a beaucoup de crédibilité, quant à moi, là-dessus.
Oui.
Donc, il y a ça aussi. Tu sais, on revient encore là-dessus, mais rappelez-vous que la CAQ est montée avec l'ADQ, avec du PLQ puis avec du PQ.
Oui, oui.
Parce que François Legault, à ce moment-là, en 2018, il y avait la crédibilité, puis ils l'ont élu.
Là, on peut comprendre que les anciens péquistes qui étaient partis à la CAQ
sont
rentrés au bercail,
oui.
Et aussi ceux de Québec solidaire. Enfin, faut pas oublier qu'il y a de nombreux péquistes qui sont partis chez QS et qui reviennent au Parti québécois.
Et possiblement
maintenant.
Des libéraux aussi qui retournent au parti.
C'est possible. Mais là, est-ce que ça risque pas d'être un gros caillou dans le soulier de Paul Saint-Pierre Plamondon et des armes aussi pour l'opposition lors de la prochaine campagne électorale? Du moins, là, c'est clair
que... Tu sais, quand tu évoquais tantôt, là, par rapport à ce sondage-là, tu sais, quand je lis, ça dit, si un référendum sur la souveraineté avait eu lieu le 6 septembre dernier, le non l'aurait emporté. Donc, ta réflexion face aux gens qui disent, tant qu'à y aller, on veut être gagnant, ça refroidit les ardeurs, évidemment, parce qu'au niveau du oui... On serait, comme on l'a évoqué là, il y a à peine quelques secondes, à 35% d'appui contre 55 pour le clan du non.
Si je regarde chez nous, dans Lanaudière, on regarde circonscription par circonscription, presque toutes les circonscriptions sont en faveur du oui. Mis à part l'Assomption, où ça ressemble au dernier référendum de 95, c'est-à-dire 49 pour le oui, 51 pour le non, mais ailleurs dans Lanaudière, c'est du oui à tour de bras. C'est évident que c'est pas quelque chose de très significatif dans l'ensemble du Québec, parce qu'on sait que c'est pas une élection mais un référendum. Mais quand même, si on regarde pour Joliette, on donnerait 59% au oui dans Joliette et 41% au non.
Ce qui est pas vraiment surprenant.
De Lanaudière étant une région assez nationaliste, indépendantiste, faut le mentionner.
On a eu pour la plupart du temps des gens du côté fédéral, c'était le Bloc, et du côté provincial, c'était le Parti québécois.
Oui, oui.
La tendance a changé avec la CAQ, mais là, il y a une tendance à repartir de l'autre côté. On verra bien, là.
Et ce qu'on voit du côté du oui, c'est que c'est un changement de génération, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont majoritairement en faveur de l'indépendance du Québec. Je dis changement de génération parce que, en 1980, ben, c'était également les jeunes. Mm-hmm. Mais cette jeune génération-là, de 1980, ben, elle est rendue une génération de tête blanche et peut-être plus frileuse à un référendum ou frileuse à l'indépendance.
Il y a des gens qui ont décroché, en tout cas, en quelque part.
Oui.
Parce que là, dans la tranche d'électeurs, les 18-34, on parle d'un chiffre de 40% de jeunes là, qui se disent favorables.
À un référendum, favorable à un référendum.
Exactement. Puis aussi à l'idée de voter sur l'indépendance du Québec.
Oui, okay, c'est ça.
On maintient 40%.
40%.
Tranche d'âge 18-34. Mais là, faites le calcul, j'étais pas fort en maths, il y a 60% qui sont pas là.
Oui, mais attention, en faveur d'un référendum sur l'indépendance. Mais si on regarde, si on pose la question à ces jeunes-là, est-ce que vous voteriez oui ou non, si un référendum se tenait demain matin, eh bien là, dans cette tranche d'âge-là, ils sont majoritairement en faveur du oui.
Bien, moi, ce qu'on me donne ici, c'est 40% un peu qui...
En faveur d'un, d'un référendum.
De voter pour l'indépendance.
Ah, ben ouais, j'avais d'autres chiffres, moi.
Oui, regarde, tiens, je vais te montrer.
Bien, c'est pas les mêmes chiffres. On n'a pas les mêmes chiffres, en tout cas, dans le palace.
J'ai regardé le même rapport que toi, là, mais ouais. C'est vraiment dit pour l'indépendance. Donc, il n'y a même pas question d'un référendum. Ça serait si on allait directement sur un appel, finalement, au vote, là.
J'avais pas les mêmes chiffres.
Quand on regarde, et ça aussi, faudrait, on donne pas l'explication, là. J'ai fouillé un peu dedans. On dit que c'est beaucoup plus fort au niveau des régions que des grands centres urbains. Et ça, on ne l'explique pas pourquoi. Attends, j'aimerais bien avoir une explication.
Je l'ai chez les 18, 34 ans. 46 % contre. 40 % pour et 14 % d'indécis. Mm-hmm. C'est à ça que ça ressemble. OK. Ouais.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bon, voilà.
Mais tu sais, c'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est beaucoup plus fort. Et tu parlais de chez nous, dans la Naudière.
Ouais.
Donc, en région, le mouvement, le pourcentage élevé vers le oui est beaucoup plus fort qu'au niveau des grandes villes, si
oui,
tu veux.
Oui, tout à fait.
Et quand on regarde, j'ai eu beau l'éplucher le rapport, on donne pas vraiment de raison comme telle. J'aimerais ça savoir... Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Je suis allé jeter un coup d'œil dans d'autres régions. Gaspésie, oui. Par exemple. Île-de-la-Madeleine. Ben, c'est le oui qui est en avance, là aussi. Là.
Oui,
alors,
oui.
On voit clairement la tendance
au
en région.
Exact.
Mais si vous allez, c'est certain, à Montréal, non.
Oui. Ben là, c'est compréhensible en quelque
non,
part.
C'est ça. Et Québec aussi, parce qu'il y a toujours cette tendance conservatrice aussi à Québec. Il ne faut pas l'oublier. Et si vous regardez les électeurs, les gens qui vont voter pour le Parti conservateur, tant sur la scène fédérale que provinciale, ben, sont contre l'idée de l'indépendance.
Et lorsque, avec tout ça, bon, évidemment, on est encore loin là, d'une campagne référendaire, on est encore à tout près d'un an, dans le fond, parce que
d'une élection pour
c'est
commencer.
Octobre 2026.
Ouais. Commençons par élire un gouvernement.
Oui, ouais. Exactement.
Mais qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon devra faire, selon
ben,
toi, Jacques?
C'est ce que j'allais dire. Uh-huh. On va voir si... Parce que, rappelez-vous, là, il n'y a pas longtemps, quand M. Bouchard est passé à la Société d'État, on lui a mis la pleure de banane un peu à lui parler de...
De jouer la belle-mère.
Oui, exactement. Et lui a dit, il devrait, en parlant de M. Saint-Pierre Plamondon, il devrait réfléchir un peu plus et tout ça.
Pauline Marois appuie
de façon inconditionnelle. Ouais. Donc, c'est de voir si le discours, parce qu'au lendemain de ça, Plamondon avait dit, on garde la même ligne. Là, est-ce qu'il y aura un petit glissement ou qu'on va garder la même ligne directrice? Ça reste à voir.
En tout cas,
c'est pas ça qui ferait en sorte, Claude, que ça ferait pas gagner, selon moi, que ça ferait pas gagner le gouvernement
du
Parti québécois. Là.
Mais chose certaine, c'est une arme dans la poche des partis qui s'opposent évidemment à un référendum. Là.
Pablo, hein, il l'a pris en note, là, Pablo.
Ah là, ça c'est sûr, ça c'est clair.
Eh oui.
Il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts avant un prochain référendum, Jacques.
Ben, j'ai l'impression que c'est ça.
Merci beaucoup, Jacques.
Salut.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Pierre Jubinville, également Jacques Plante. Manquez pas dans un tout petit moment Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Ici Claude Fournel, je vous souhaite une excellente soirée. On va se retrouver demain, 16h, pour une autre édition de La Naudière PM. Salut!